Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'Infox. Comment faire passer l'agression d'un pays voisin, l'invasion d'un pays souverain pour une opération défensive, voire une guerre de libération ? Dans son livre « Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine », la journaliste franco-russe Elena Voloshin raconte l'élaboration du dispositif de propagande en place aujourd'hui en Russie et son influence par-delà les frontières. Elle est notre invitée dans un instant. Le brouillard de la guerre au Moyen-Orient s'étend à chaque nouvel épisode du conflit qui oppose Israël au Hezbollah libanais, Israël à l'Iran. Dans leurs chroniques respectives, Nathan Gallo des observateurs de France 24 et Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif de RFI viendront démonter des infox qui circulent de façon virale sur les réseaux sociaux. Une désinformation qui fausse nécessairement la perception du réel. Mais tout de suite, notre invité.
On en parle.
Bonjour Elena Voloshin.
Bonjour Sophie.
Vous publiez chez Autrement Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine. Un livre témoignage. Vous étiez à Moscou, correspondante pour des médias francophones et puis chef du bureau moscovite de France 24. Et à ce moment-là, vous avez vécu sur place les 8 années qui ont conduit au déclenchement de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Vous décrivez, vous analysez comment la propagande de Vladimir Poutine simule et provoque les situations qu'elle prétend combattre. Le but pour vous, c'est de rétablir les faits dans ce livre. Ce livre, il s'ouvre sur la Crimée. Vous avez couvert donc ce qui s'est passé en 2014. Pour vous, ça a été le laboratoire de la réalité parallèle du régime de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
J'entends que vous citiez cette phrase que j'ai écrite et qui, je trouve, résume bien l'action de la propagande, c'est de provoquer et instrumentaliser les situations qu'elle prétend combattre. C'est le principe de la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que lorsque Vladimir Poutine a dit que des nazis avaient pris le pouvoir à Kiev à la faveur d'un coup d'État orchestré par les Occidentaux et qu'il viendrait attaquer les populations russophones de Crimée et du Donbass. Lorsque la guerre du Donbass, d'abord, est advenue en 2014, et ensuite la guerre à grande échelle en 2022, ces conflits armés ont permis d'auto-justifier ce discours dont Vladimir Poutine disait vouloir défendre, en fait, ces populations. Et en Crimée, quand je parle de laboratoire de la réalité parallèle, c'est lorsque les populations se sont soulevées face à cette prétendue menace des nazis qui allaient venir les massacrer et les soumettre tout simplement par haine de tout ce qui est russe, comme le dit le discours de la propagande, parce que ces gens parlaient russe ou étaient dans un peu plus dans l'espace culturel en fait de la Russie. À partir du moment où il y a une révolution pro-européenne, où l'Ukraine a une nouvelle fois tenté, et je dis une nouvelle fois parce que ce n'était pas une première en 2014, tenté de se tourner vers l'Europe, là Vladimir Poutine a utilisé, instrumentalisé par ses discours de haine contre ses prétendus nazis, a instrumentalisé ses populations pour en faire elles aussi son arme de guerre, parce que réceptacle de la propagande, elles en étaient devenues les vecteurs. Elles ont rejoué à grande échelle, en 3 dimensions en fait, ce mythe du soulèvement pro-russe, anti-nazi, qui a permis d'auto-justifier en fait à Vladimir Poutine, en le provoquant, son action qui allait suivre.
Ce qui est important, c'est que ce conditionnement de la population, il se déroule sur la longueur, sur de très longues années. Vous parlez 2014, le moment où Poutine donc envahit la Crimée. On remonte même jusqu'en 2004, en fait.
Tout à fait. On remonte même jusqu'en 91, en réalité.
Oui. Mais 2004, ce sont 2004, les révolutions de couleur.
Oui, les révolutions de couleur. Il y a la révolution des roses en Géorgie, pro-européenne aussi, qui porte Mikhaïl Saakashvili au pouvoir. Il y a la révolution orange en Ukraine, lorsque, dans la joute électorale entre le pro-russe Viktor Yanukovych et le pro-européen Viktor Yushchenko, c'est d'abord Yanukovych qui l'emporte, et puis ensuite les Ukrainiens se soulèvent en disant que le scrutin a été truqué. Et ensuite, il y a un troisième tour qui, cette fois, confirme que la victoire était bien au pro-européen Viktor Yushchenko. Mais à ce moment-là, au moment de la campagne électorale, même en 2003, un an avant la révolution orange, Viktor Yushchenko, lorsqu'il allait en campagne dans dans les fiefs pro-russes, dits pro-russes, il était peint sur les affiches électorales en nazi. Alors même que son père, soldat de l'armée rouge, avait été fait prisonnier des camps de concentration, d'extermination de Dachau, Buchenwald et Auschwitz. Et en fait, j'ai parlé avec des historiens de ces régions et j'essaie de, vraiment de démystifier ces mythes, hein, parce que le mythe du pro-russe qu'on opprime, il est ancré, y compris dans nos propres consciences. On se dit, il devait y avoir une bonne raison pour cette guerre. Alors j'ai parlé avec des historiens du Donbass, de Donetsk, de Lourensk, qui m'ont expliqué comment en fait cette propagande pro-russe, après la chute de l'URSS, en fait, elle a continué d'infuser les esprits, mais pas en leur disant toutes les bonnes promesses qu'allait leur apporter la Russie, parce que sinon, pourquoi ne pas vouloir finalement se tourner vers la Russie ? Non, en mentant sur ce qu'était réellement, en fait, d'abord la démocratie, en diabolisant la démocratie, et ensuite en disant que l'Ukraine indépendante allait justement opprimer les russophones. Les tentatives, par exemple, de réinstaller la langue ukrainienne dans ses droits, qui étaient complètement, en fait, anéanties hein, par l'uniformisation soviétique. Hein, tout le monde parlait russe à la chute de l'Union et les dizaines d'années qui ont précédé. Eh bien, à chaque fois que la langue ukrainienne essayait de se réinstaller dans ses droits, il y avait cette chimère de l'interdiction de la langue russe. Et tout un tas d'autres choses comme ça, ma fixeuse en Crimée, par exemple, avec qui je travaillais et qui travaillait pour un organe de propagande russe pendant des années, m'expliquait comment aussi ils agitaient la chimère de la saisie de la Crimée par l'OTAN. Donc, et c'est des discours qui vraiment ne datent pas de 2014. Ça avait préparé les populations bien en amont.
Alors sur le procès en nazisme, puisqu'on y est, comment est-ce que Poutine parvient à faire oublier le pacte germano-soviétique de 39-41 et puis à réhabiliter Staline dans un pays qui compte autant de victimes du stalinisme que de familles endeuillées par la Deuxième Guerre mondiale?
Alors le pacte germano-soviétique, c'est très important parce qu'effectivement, Poutine a interdit d'amalgamer le stalinisme au nazisme. Et Staline lui-même, et Hitler d'ailleurs, avait rendu secret les protocoles de partage de l'Europe. Staline, dans sa propagande, disant qu'il devait créer un front de l'Est pour prémunir son pays de l'agression allemande, et Hitler inversement disant que il devait envahir la Pologne parce qu'il fallait qu'il défende son espace vital de l'agression soviétique.
C'est déjà la guerre préventive.
C'est exactement le mythe de l'agression préventive. Et là, en fait, on est dans deux empires, deux dirigeants impérialistes qui se mettent d'accord pour acquérir des nouveaux territoires. En l'occurrence, pour Staline, c'était les pays baltes, l'est de la Pologne, qui sont ensuite, après la guerre, devenus l'ouest de l'Ukraine, la Galicie orientale et la Volhynie. Et là, la justification de ça, c'est Staline disait il faut défendre, par exemple, les ukrainophones et les russophones aussi contre les Polonais, par exemple. Et en fait, ce que je fais aussi dans cet ouvrage, c'est que je compare les propagandes poutiniennes, staliniennes et hitlériennes et nazies. Et Vladimir Poutine, effectivement, aujourd'hui, non seulement il fait oublier le pacte Molotov-Ribbentrop, en tout cas, les protocoles secrets sont mentionnés dans les livres d'histoire. On dit souvent à tort qu'ils ne le sont pas. Ils le sont.
Mais comment ?
Pas par les mêmes discours que Staline. C'est-à-dire que, en fait, Staline voulait, encore une fois, créer un front de l'Est. Les populations de ces territoires, on n'envahit pas, l'armée traverse la frontière de façon pacifique. Les populations sur place dans les pays baltes, par exemple, font des appels à l'aide à Moscou parce qu'ils se savent menacés par l'Allemagne nazie. Il y a des référendums d'autodétermination, on vote massivement pour que l'URSS intègre ces pays, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment c'est les mêmes discours, la même propagande, à cela près que, effectivement, Poutine dit, en tout cas les manuels d'histoire actuels disent, il y a eu des protocoles secrets, c'est juste sur l'aspect technique du secret du protocole, là c'est mentionné, mais par contre sur la justification de pourquoi ils ont été signés, en fait c'est que Staline n'avait pas d'autre choix, qu'il avait tenté de s'allier avec les Occidentaux, que c'est les Occidentaux qui n'avaient pas voulu en fait s'allier avec l'URSS d'emblée contre l'Allemagne nazie, qu'ils avaient voulu même les Français, les Britanniques, avec le portefeuille américain, utiliser l'Allemagne nazie comme une arme contre l'URSS. C'est exactement le même discours que Vladimir Poutine a aujourd'hui au sujet de l'Ukraine. Le diable américain veut utiliser l'Ukraine nazie comme une arme dirigée contre notre pays.
Parce que c'est exactement le type de discours que ressort la porte-parole des affaires étrangères, Maria Zakharova, la veille ou l'avant-veille du lancement de l'invasion russe en Ukraine. Elle accuse la Grande-Bretagne à ce moment-là. C'est toujours cette accusation miroir, en fait.
Elle dit, vous nous accusez de vouloir attaquer l'Ukraine, mais prouvez-nous que ce n'est pas vous qui allez nous attaquer.
C'est ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve.
Exactement. Il ne faut pas oublier que la position officielle russe a démenti jusqu'au dernier jour le fait que la Russie allait attaquer l'Ukraine. Maria Zakharova, vous l'avez mentionné, elle citait des médias, tous les médias, nous qui publions des articles sur la concentration russe des troupes, elle nous citait en nous pointant du doigt, en nous disant « fake news ». Sauf que après le 24 février 2022, fake news toujours, la Russie n'a pas attaqué l'Ukraine. La Russie mène une opération militaire spéciale de dénazification de l'Ukraine. Mais plus terrible que cela, c'est devenu évident pour tout le monde après le 24 février 2022. Mais 2014-2022, cette première guerre, pour qui est-ce évident aujourd'hui que c'était une guerre de la Russie contre l'Ukraine? Pour peu de gens finalement, parce que Vladimir Poutine a toujours qualifié cela de guerre civile, il a toujours envoyé son armée en secret, il n'y a pas eu suffisamment, à mon sens, d'enquête.
Oui, c'est ce que j'allais demander. Vous pensez que, en fait, voilà, l'Occident a minimisé ce qui se passait en 2014.
On a minimisé la propagande comme arme de guerre, on a minimisé l'impact du mensonge sur le cours de l'histoire. On a omis de se dire que, en fait, si Vladimir Poutine envoyait son armée pour déstabiliser, occuper un territoire, mais pas que son armée, ses mercenaires, ses agents, ses politiciens, ses polytechnologues, ses enseignants, son argent, s'il envoyait tout ça pour envahir finalement un territoire, enfin soumettre un territoire à sa volonté à lui, créer une ligne de front comme il l'a fait dans le Donbass, on se disait, bon, bah, c'est une guerre locale, il va s'arrêter là, il ne veut pas plus, ce n'est pas grave. Parce qu'en réalité, ce n'est pas autre chose que le KGB a fait aussi en Transnistrie en 93, en Ossétie, en Abkhazie, Géorgie 2008. Ce sont finalement les mêmes créations de fronts insurrectionnels en tenant compte, comme l'a dit en 2013 le général Gerasimov, du potentiel de protestation des populations, en utilisant la désinformation, la propagande comme arme de guerre non conventionnelle, parce que les militaires, les premiers, vous diront que la guerre avec les armes, c'est le dernier stade de la guerre, mais que vous êtes en guerre bien en dessous du seuil de la guerre conventionnelle avec tous les autres instruments qui existent.
Dans ces conditions, la propagande ayant tellement balisé le terrain, ayant la vache de cerveau ayant tellement agi, est-ce que c'est réversible?
Ça, c'est une vraie question d'abord juridique et ensuite philosophique. C'est-à-dire que juridiquement, d'un point de vue du droit international, ces territoires appartiennent à l'Ukraine et c'est aux Ukrainiens de décider, en fait, est-ce qu'ils veulent les céder ou pas. Après, j'ai notamment fait des reportages en ex-Yougoslavie, en Croatie, où un territoire insurgé pro-serbe sous la houlette de la Serbie de Milosevic pendant des années a été réintégré pacifiquement à la Croatie ensuite. Je ne dirais pas que les gens vivent réellement en paix, même s'il n'y a plus de bombes, parce qu'ils n'ont pas la même histoire. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent on ne les a pas attaqués, et les autres qui disent mais alors contre qui on s'est défendu? Et ça va être la même chose en fait dans le Donbass par exemple. Les gens sont sur place sont plutôt acquis au récit de Moscou en fait. Ils disent les nazis nous attaquent, la Russie nous défend. Et si vous réintégrez ce territoire-là à l'Ukraine demain, comment ils vont faire pour vivre avec deux histoires? Ou alors il faut une commission vérité et réconciliation. Parce que sans la vérité, il n'y a pas de justice, et sans justice, il n'y a pas de paix. Ça, c'est un slogan, mais c'est la réalité.
On n'en est pas encore là. Un narratif qui circule aussi, ça a toujours été de la part des Russes qu'ils ne massacrent pas de civils, ils ne tuent pas de civils.
Complètement.
Est-ce que vraiment, au bout de 2 ans et demi, avec tout ce qu'on peut voir malgré tout, malgré la censure, les Russes y croient encore à ça?
Alors, les Russes, on va parler du russe générique, hein, parce qu'on ne sait jamais il y a qui dans ce russe générique. Il y a la masse qui retransmet un discours, qui est présenté comme une opinion, et qui est en fait un discours de dogme et de propagande. Et puis, il y a ce que chacun pense en son fort intérieur.
Ouais.
Et on voit qu'il y a beaucoup de gens quand même qui résistent ouvertement, en risquant leur liberté et leur vie, ou juste mentalement, et qui ne diront jamais ce qu'ils pensent réellement, de peur de la délation qui est devenue complètement généralisée. Alors, si l'on prend le russe générique, qui est quand même suffisamment nombreux hein, pour que le régime de Vladimir Poutine ne bascule pas, ces gens-là, ils ne veulent rien savoir. Ils ne savent pas. C'est vraiment... Ils ne savent pas qu'il y a Boutcha, si vous leur parlez de Boutcha, parce que la propagande russe le répète depuis... Dès que l'armée russe est accusée d'un quelconque crime de guerre par les médias internationaux occidentaux et que cet écho peut résonner en Russie, ils ressortent Boutcha en disant « Comme le fake de Boutcha, ils nous accusent de... Ouais. » Et de façon préventive même, ils disent « Les médias occidentaux préparent des mises en scène pour une nouvelle fois accuser la Russie de commettre des crimes de guerre et masquer leurs propres crimes. » Et ça, si, c'est un instrument dans le discours qui est réemployé vraiment à titre quotidien, des espèces de coups de marteau comme ça, qui sont là pour justement le jour où ça arrive, que les Russes soient préparés à se dire « Non, ça c'est pas possible, c'est un fake. » Alors au sujet de Boutcha concrètement, le discours est complètement... Il y a eu de la confusion. Le premier jour, ils ont dit « Les corps ont bougé. » Ensuite, quand c'était juste plus tenable, ils ont dit « Bah oui, il y a des corps, mais c'est les Ukrainiens qui les ont massacrés avant de quitter la ville. » Et au final, les Russes éteignent et ne veulent plus savoir. Ils veulent adhérer à une idée. Ils veulent adhérer à une version. Ils veulent pas des faits.
Les faits
sont des versions, les versions sont des faits. Et c'est ce que fait la propagande de plus terrible, c'est de confondre les faits et les versions. Les faits existent.
Oui.
Ils existent.
Il y a des incohérences dans la propagande qui ne gênent plus personne. Le fait de dénier l'attaque et l'entrée en guerre. Et ensuite, l'explication selon laquelle il y a des troupes russes qui envahissent l'Ukraine, mais c'est pour se défendre.
Oui, non, mais
c'est contradictoire.
Fait, mais c'est ce que fait la propagande. Elle a vraiment aucun souci de cohérence. C'est-à-dire que autant ça martèle toujours la même chose, autant ça peut dire tout et son contraire. Moi, j'apporte dans le livre l'exemple de ce panneau publicitaire où il y a Vladimir Poutine dans une rue d'une ville russe, même pas à Moscou, où d'un côté vous avez Vladimir Poutine en portrait et c'est dit la Russie ne commence pas les guerres, elle les termine. Et de l'autre côté du panneau, le même Vladimir Poutine, enfin une autre photo, et c'est écrit nous n'avions pas d'autre choix. Donc en fait, c'est le contraire. Si la Russie n'a pas commencé la guerre, elle n'avait pas d'autre choix que de quoi. Et en fait, les Russes peuvent choisir de croire soit la Russie n'a pas commencé la guerre, soit la Russie l'a commencé, mais c'était inévitable. Ce sont les deux versions, et en fait, les gens ne se posent pas la question même de savoir est-ce qu'il y a une contradiction à cet endroit. Mais juste la Russie est dans le camp du bien. Et dans le camp du bien, bah, tout ce qu'elle fait, c'est bien.
Dans la propagande, le choix des mots importe énormément. Que se passe-t-il avec ce mot « guerre » ? Il est autorisé dans certaines circonstances, interdit dans d'autres. Et là encore, c'est une inversion de la réalité.
Alors, la guerre, elle est prononcée tous les jours sur les chaînes de télévision russes et dans les médias russes autorisés en Russie. Mais pour parler de la guerre menée par l'Occident contre la Russie. La guerre en destruction, la guerre de valeurs, celle où il n'y a pas de bombes, mais il y a juste le déclin de l'humanité à la clé. Parce que nos sociétés, elles sont vouées à la disparition ou à la folie, parce qu'on autorise la pédophilie, nous dit la propagande russe. On a la justice juvénile, c'est les enfants qui gouvernent, les parents ne peuvent plus les élever.
Il y a un portrait de la société occidentale assez délirant.
On est envahi par les homosexuels qui, en incapacité de se reproduire, encore une fois, vont mener nos civilisations à leur perte. Des théories fumeuses héritées des courants slavophiles panslavistes du 19e siècle, j'en parle dans mon livre pour plus de détails, j'y renvoie. Mais cette fameuse guerre civilisationnelle au nom de laquelle la Russie, encore une fois, décriminalise les violences domestiques, interdit la propagande dite homosexuelle, maintenant veut interdire la propagande dite du sans-enfant, etc., encourage les familles nombreuses, toute cette propagande-là s'accompagne. Donc cette guerre-là, elle existe. Par contre, la guerre que Vladimir Poutine mène contre l'Ukraine, la guerre d'invasion, la guerre impérialiste, la guerre d'agression, celle-là, elle n'existe pas. Voilà. Encore une fois, c'est une opération spéciale, comme on a mené une opération antiterroriste en Tchétchénie en 1999. Ce n'est pas une guerre, parce qu'une guerre, ça fait des morts et ça fait des morts civiles.
Est-ce que la propagande, on l'a compris, elle est vraiment à destination de la population russe d'une part, mais tout ce qui circule comme propagande, par exemple sur l'Occident, tous ces faits de société dont vous parlez, la dénonciation de l'homosexualité, etc., toute cette propagande-là sur un Occident décadent, elle déborde largement la Russie.
Bien sûr. Le but de la propagande russe, c'est de saper, c'est de créer le plus de confusion possible et de saper surtout la confiance envers les institutions démocratiques et la confiance envers la démocratie. La démocratie est vraiment diabolisée. La démocratie, c'est le chaos. C'est le courant d'extrême droite porté à son paroxysme, c'est-à-dire que voilà, c'est l'État qui doit avoir tout le pouvoir, le monopole du pouvoir, de la violence. Les individus ne peuvent pas prendre leur destin en main. Et en fait, du coup, à partir du moment où c'est ce que permet de faire les démocraties, on a des élections, on a des scrutins, on a des débats politiques, on peut destituer nos dirigeants par le vote. Tout ça, la Russie encourage à ce que l'État, voilà, les États deviennent de plus en plus autoritaires. Et en fait, on voit que ces courants, ils sont portés par le complotisme, par le fait que les médias traditionnels, ils mentent, ils ne disent pas la vérité est ailleurs, tout devient égal. Tout ce qui peut servir, en fait, ce phénomène-là, c'est-à-dire le relativisme. Lorsque nous, on dit, voilà, Vladimir Poutine a agressé l'Ukraine, ah mais regardez ce que les Américains ont fait en Irak, mais quel rapport, en fait. C'est ce que fait la propagande russe, c'est qu'elle adapte, en fait, regardez ce que le colonisateur a fait en Afrique, voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce serait de dire que, aujourd'hui, non, la Russie ne se comporte, mais bien sûr, pas du tout comme une puissance coloniale, hein, dans les pays où elle exerce une influence, via ses relais d'influence. Mais c'est ce que fait la propagande, c'est qu'elle adapte, en fait, localement, régionalement, par pays, par région, son discours à ce que veulent entendre les individus. Et finalement, mais ceci n'est pas vrai, mais pourquoi ce ne serait pas vrai si cela dit exactement ce que je pense ? Et du coup, en fait, ce qui compte, c'est qu'elle donne aux individus ce qu'ils auraient envie de croire. Et donc, c'est très confortable. Et ça encourage aussi le scepticisme vis-à-vis des médias, des journalistes, etc. Ça devient une forme d'intelligence, en fait. Et on se sait intelligent parce que on fait plus confiance à ces médias, on les croit plus, on va aller chercher ailleurs. Et en fait, ailleurs, le problème, c'est que cet ailleurs est complètement inondé par cette propagande. Ce n'est pas à dire que nous, on ne se trompe jamais en tant que journaliste, mais en tout cas, l'intention, elle reste celle d'informer et de porter le réel, alors que les médias de propagande, leur intention, c'est la manipulation des consciences, c'est la destruction, la dislocation, pour ensuite avoir les mains déliées pour atteindre des projets qui ne répondent juste bêtement pas à des règles de droit que les dirigeants de tous les pays en fait, sont tenus de respecter.
Merci beaucoup Elena Voloshin. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Propagande, l'arme de guerre » de Vladimir Poutine. Et puis chaque semaine, on vous entend, on vous voit sur France 24 dans la chronique « Vue de Russie » où vous analysez toujours en prise avec l'actualité tout ce que peut produire la Russie de propagande aujourd'hui. Les raids de l'armée israélienne contre le Hezbollah au Liban se poursuivent. On apprend aujourd'hui que la frontière avec la Syrie est désormais coupée. Dans ce contexte extrêmement tendu, on voit circuler beaucoup d'infox, de nature à fausser la perception que l'on peut avoir de la situation. Bonjour Nathan Gallo.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Observateurs de France 24. Vous avez notamment épinglé une infox qui tente à faire croire que 40 000 soldats du Hezbollah seraient massés à la frontière syrienne, prêts à fondre sur Israël. Des photos et vidéos circulent montrant une mobilisation massive de combattants, sauf que ces clichés ne correspondent pas à ce qu'on nous en dit. Vous avez travaillé plus précisément sur ces images.
Oui, alors ces images, elles sont présentées comme l'illustration d'une information paru dans le quotidien israélien Haaretz. Le 24 septembre dernier, le média publie une analyse récapitulant les forces et faiblesses du Hezbollah sur le plan militaire. L'article mentionne, entre autres, la présence de 40 000 combattants potentiels sur le plateau du Golan en Syrie. Ces combattants, originaires d'Irak, du Yémen et de Syrie, seraient prêts à répondre à l'appel du Hezbollah, selon des sources militaires israéliennes citées par le journal. Alors le jour même, ce chiffre, il est repris par plusieurs médias, dont The New Arab ou l'agence de presse turque Anadolu. Mais sur les réseaux sociaux, de nombreux comptes se mettent aussi à accompagner ce chiffre d'images fausses censées montrer une prétendue mobilisation.
Alors c'est le cas d'une photo vue plus de 100 000 fois sur X.
Exactement. Dès le lendemain, un compte sur X appelé Current Report partage une photo censée montrer ses soldats mobilisés. Alors on y voit des rangées de combattants portant des drapeaux jaunes, de la même couleur que celui du Hezbollah, en plein désert. Sauf que cette photo, elle date de 2016 et elle a été prise à Palmyre, à environ 300 km du plateau du Golan. Quant au drapeau jaune en question, il s'agit de l'étendard d'une milice chiite afghane qui combattait en Syrie, appelée Liwa Fatemiyoun.
Vous êtes donc sûr que c'est une image sortie de son contexte, mais comment est-ce que vous avez retrouvé cette image en question ?
Par une simple recherche d'image inversée, c'est-à-dire en cherchant si cette image avait été précédemment publiée sur Internet. L'outil Google Lens, qui permet de faire ce type de recherche, nous a renvoyé directement vers la page Wikipédia de cette milice où la photo est disponible.
Une vidéo de parade militaire a aussi été beaucoup diffusée.
Oui, cette séquence d'une quinzaine de secondes montre un défilé de soldats dans un décor désertique. Ceux qui ont partagé la vidéo, notamment des comptes arabophones et hispanophones sur X, soutiennent qu'elle montre la mobilisation de ces fameux combattants du Hezbollah. Mais cette séquence, vue des centaines de milliers de fois, provient en réalité d'un défilé militaire en Jordanie qui a eu lieu en juin dernier lors d'une cérémonie officielle. Là encore, grâce à des recherches d'images inversées, nous avons retrouvé la vidéo d'origine sur YouTube publiée par la chaîne jordanienne Jordan TV.
Alors que peut-on dire tout de même sur ce chiffre de 40 000 combattants ?
Alors, mis à part l'article d'Haaretz, peu d'éléments sont connus sur ces 40 000 soldats basés en Syrie. Hassan Nasrallah, le désormais ex-chef du Hezbollah tué par l'armée israélienne fin septembre, avait déclaré en 2021 que le groupe comptait au total 100 000 combattants. Sauf que ce chiffre avait à l'époque laissé sceptiques les experts du mouvement. En 2023, l'experte indépendante sur le Moyen-Orient, Eva Kouloriotis, avait estimé auprès de l'AFP que le Hezbollah comptait plutôt 20 000 combattants très entraînés et une réserve de 50 000 autres. Alors dans l'article de Haaretz, un haut responsable de la défense israélien précise que ces 40 000 soldats ne sont pas des combattants d'élite. Mais ce dernier se veut toutefois prudent sur les capacités de ce type de combattants. En tout cas, soyons clairs, à ce jour, aucune image d'une mobilisation massive de ces soldats sur le plateau du Golan n'a été diffusée.
Merci à vous Nathan Gallo pour cette vérification que l'on retrouve en images sur le site internet des Observateurs de France 24. On reste dans cette région du Moyen-Orient pour évoquer maintenant l'attaque massive lancée par l'Iran contre Israël ce mardi. Au total, près de 180 projectiles ont été tirés par les forces iraniennes sur l'État hébreu. Si la défense antiaérienne a fonctionné, plusieurs d'entre eux ont touché leur cible et provoqué des dégâts. Trois jours après cette nouvelle montée des tensions, de nombreuses images sorties de leur contexte, elles aussi, circulent encore sur les réseaux sociaux. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
Dès les premières minutes de cette attaque, des comptes influents ont diffusé massivement de fausses informations, à tel point qu'il est encore difficile de démêler le vrai du faux.
Oui, tout commence au moment même où l'armée israélienne annonce que des missiles viennent d'être tirés depuis l'Iran. Pendant que les sirènes d'alerte retentissent dans l'État hébreu, une première vidéo devient virale sur les réseaux sociaux. On y voit des dizaines de camions lance-roquettes multiples parfaitement alignés à flanc de colline en train de lancer des centaines de projectiles dans le ciel. Des internautes l'affirment, ces images impressionnantes montreraient la pluie de missiles lancés en direction d'Israël. Certains vont même jusqu'à dire à tort que la télévision iranienne aurait diffusé cette séquence.
Sauf que, vérification faite, ces images ne sont pas réelles.
Non, cette vidéo apparue pour la première fois en ligne sur TikTok en novembre 2023 est tirée d'un jeu vidéo. L'analyse des camions lance-roquettes des M77 Ogange de fabrication yougoslave montre que cette scène est issue d'un jeu de simulation militaire. Un jeu vidéo sorti sur PC il y a maintenant 10 ans.
Y a-t-il d'autres images de ce type en circulation ?
Oui, après que les premiers missiles ont frappé Israël, certains ont diffusé une vidéo censée montrer un avion iranien attaquant Tel Aviv. Mais là encore, cet extrait est issu d'un jeu vidéo. Aucun avion iranien n'a en réalité attaqué Israël. Ces images de synthèse sont donc destinées à faire du clic et à semer la terreur.
Des scènes de panique, elles aussi ciblées par la désinformation, Grégory.
Et l'exemple le plus marquant est une vidéo dans laquelle on voit Benjamin Netanyahou courir dans un couloir. Ceux qui la diffusent affirment qu'elle montre le premier ministre israélien en panique, en train de se réfugier dans son bunker présidentiel. Sauf que c'est faux, la vidéo en question a été diffusée par Netanyahou lui-même sur son compte X le 13 décembre 2021. Il courait alors dans les couloirs de la Knesset pour aller voter, et non pas pour se mettre à l'abri d'une attaque de missile.
Qu'en est-il maintenant des images censées montrer l'ampleur des dégâts sur le territoire israélien ?
Eh bien, une nouvelle fois, parmi les vraies images se cachent énormément de documents sortis de leur contexte. Une vidéo vue plus d'1 600 000 fois prétend notamment montrer un missile frappé de plein fouet un immeuble résidentiel à Tel Aviv. Une recherche d'images inversées montre pourtant qu'il s'agit d'un drone ukrainien percutant une tour à Moscou en 2023. Et puis en plus de diffuser ces infox, les mêmes comptes affirment qu'Israël aurait recouvert l'une de ses bases militaires frappées par les Iraniens avec des faux nuages pour empêcher les satellites de voir les dégâts. Une fausse information vue des millions de fois, mais démentie par une image satellite publiée par l'agence de presse AP ce jeudi, qui montre bien des dégâts sur la base de Nevatim.
Grégory Genevrier, de la cellule Info Vérif de RFI. Merci à vous. Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Claude Battista à la réalisation. Pour retrouver émission et chronique, il vous suffit de taper Info Vérif RFI dans un moteur de recherche. Et si vous souhaitez nous adresser des informations douteuses à vérifier, n'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp de l'émission au plus 33 6 08 94 93 05. On se retrouve ici même la semaine prochaine. En attendant, place à l'info sur RFI avec Philippe Le Caplain.